À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Riyad Satouf. Et je fais des livres de bande dessinée, enfin je suis auteur de bande dessinée.
Cinquième épisode, vous n'avez encore rien vu. Bonsoir Riyad Satouf.
Bonsoir Caroline Brouet.
C'est un titre emprunté à un film d'Alain René, parce qu'on va parler du cinéma, et puis on va parler d'avenir, ou futur, puisque c'est un mot que vous aimez bien, je crois, mais ça on verra tout à l'heure. Le cinéma, c'est une suite logique de la bande dessinée ou de votre parcours ?
C'est pas une suite, parce que ça signifierait que la bande dessinée appartiendrait au passé, ou que ce serait une première étape. Non, le cinéma, en fait, c'est arrivé dans ma vie d'auteur, grâce à la bande dessinée. J'ai eu la possibilité de faire des films et de d'écrire des films, de les réaliser. Ça a été plus facile pour moi parce que je suis venu avec mon univers dessiné. Donc j'avais rencontré une productrice qui s'appelait Anne-Dominique Toussaint, qui était une grande productrice de cinéma et qui m'a proposé de faire des films. J'ai pas eu à me battre pour trouver un producteur, les convaincre, etc. Donc j'ai eu énormément de chance. Mais voilà, c'était un fantasme pour moi de faire un film. Comme beaucoup de dessinateurs, je rêvais un jour que, je sais pas, moi, que quelqu'un m'a, qu'un
producteur. Spielberg au hasard.
Spielberg m'appelle et me dise, I love your work, come and join me in Hollywood very quickly, I need you. Et je me disais, ok, ça me faisait pas du tout. Enfin, voilà, j'avais un ego surdimensionné à ce sujet. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas Spielberg qui m'a appelé, mais c'est Anne-Dominique Toussaint. Et j'étais extrêmement heureux. Et donc, je me suis jeté dans cette aventure-là. En effet, sans forcément avoir toute la formation ou le bagage pour diriger des acteurs et des choses comme ça, mais je pouvais pas refuser de faire une telle expérience. Voilà, ça a été quelque chose que j'ai adoré faire, mais qui est radicalement différent de la bande dessinée. Il n'y a pas plus différent que dessiner et écrire une bande dessinée et réaliser un film, c'est les deux, je dirais que c'est aussi différent que dessiner une bande dessinée et être cosmonaute, par exemple. Je pense que c'est grosso modo à peu près pareil.
Même si, d'un point de vue purement néophyte, hein, on se dit, il y a des images, il y a du texte à animer. Vous avez fait, vous, la section cinéma d'animation à l'École des Gobelins. Non, mais sans plaisanterie mise à part, on parlait d'écriture visuelle, par exemple, hier, de votre écriture visuelle. Et la façon dont, parfois, vous pouvez travailler vos albums comme des storyboards. Donc... On se dit qu'il y a des points communs.
Bah pour l'écriture d'une histoire, même une histoire de cinéma, c'est vrai que la bande dessinée peut aider, ou peut-être éventuellement pour la composition d'une image, la composition d'un cadre, ou le sens d'une image, pour une mise en scène, etc. Mais quand même, réussir à expliquer ou à transmettre, pas forcément expliquer, mais réussir à transmettre à des acteurs ou avec un mouvement de caméra ou à expliquer à des gens ce qu'on veut mettre en scène, c'est très très différent et c'est un tout autre métier, une toute autre activité que de le faire soi-même dans sa tête sous la forme d'un dessin. Par exemple, moi je sais que j'ai pas forcément de notion d'éclairage, par exemple. quand je me suis retrouvé avec les chefs opérateurs avec qui je travaillais, je leur expliquais grosso modo ce que je voulais, etc. Et on voit bien que je pourrais pas dire, tiens, mais moi, un projecteur de temps pour faire telle lumière, ou etc. Je suis obligé de, pour réussir à expliquer ce qu'on veut montrer par des mots, de transmettre ça à des techniciens, et c'est très compliqué, surtout quand on est auteur de BD et introverti. Voilà, il y a quelque chose de...
Habitué à un travail solitaire, alors que vous avec toute une équipe.
Et avec des acteurs, surtout. C'était pour ça aussi que mon premier film, Les Beaux Gosses, je tenais vraiment à le faire avec des ados qui n'avaient aucune expérience, parce que je me disais qu'ils me jugeraient pas de faire des erreurs. Parce que eux-mêmes étaient débutants. Donc moi, j'étais débutant aussi. Donc ça a été une expérience géniale là-dessus, parce que je sentais bien qu'avec les acteurs professionnels, vous savez, à partir du moment où ils ont tourné dans 50 films, si vous vous trompez sur un truc ou que vous faites par exemple, vous vous couvrez trop. Alors on dit couvrir trop, ça veut dire faire trop d'axes d'une scène. Vous vous dites après, tiens, je vais faire un montage, je vais m'en sortir et tout. Les acteurs, ils sentent quand vous vous couvrez trop, ça signifie que vous n'êtes pas sûr de vous. Et donc au bout d'un moment, on leur demande de refaire 50 fois des prises. Ils savent par leur expérience qu'on va pas utiliser tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, vous perdez lentement en crédibilité auprès des acteurs professionnels. Or, les ados, ils comprennent rien à rien. Moi, je sais que le jeune Vincent, ce que je l'adorais, c'est qu'il savait pas du tout pourquoi on faisait tel ou tel truc. Il faisait tout ce que je lui demandais, on refaisait les prises, etc. Il y a quelque chose de très douillet, enfin voilà, Et je tenais vraiment à ça dans mon premier film. Je voulais pas tout de suite faire l'acteur et qui dit, oh, on va la faire trois fois. Enfin, le réalisateur qui a confiance dans ses... J'avais pas confiance en moi, voilà.
Est-ce que vous avez une culture cinématographique, Riyad Sattouf?
J'ai une certaine culture cinématographique, oui, que j'ai eu à mes études, à partir de mes études au Gobelin. Je me suis mis à regarder énormément de films, à aller au cinéma beaucoup, à mon arrivée à Paris. Mais dans l'enfance, non, j'avais aucune... Je regardais les trucs à la télé, j'avais une culture cinématographique populaire basée sur des chocs de films qui m'ont marqué quand j'étais ado, ça va être Conan le Barbare en version française, Star Wars, enfin des trucs que, voilà, personne ne me montrait de films d'auteur, par exemple, de choses comme ça. J'avais pas du tout accès à cet univers-là.
Dans Le Jeune Acteur 1, sur les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, vous racontez que vous avez découvert François Truffaut en regardant Rencontre du Troisième Type de Spielberg, on y revient.
Oui, tout à fait, oui. Alors moi, j'adorais Spielberg, c'est vrai, parce que ça faisait partie des films auxquels j'avais accès. Déjà, il passait à la télé. Il y avait Indiana Jones, évidemment, Les Dents de la Mer. Enfin, quand il y avait Spielberg, c'était vraiment, je sais pas si les jeunes générations se rencontrent peut-être pas du tout aujourd'hui, mais c'était vraiment le plus grand réalisateur, le plus populaire et qui faisait des choses, entre guillemets, enfin, considérées comme de qualité. Il était à la fois un auteur très pointu et en même temps très populaire. Et un jour, j'étais avec mes grands-parents dans leur petite maison en Bretagne, et on voit à la télé, je regarde Rencontre du Troisième Type, et à ce moment-là, on voit un acteur qui semble avoir un accent, qui a une voix un peu comme ça, et qui parle. Et mon grand-père me dit, tiens, tu vois, celui-là, c'est un Français, il s'appelle François Truffaut, et déjà, j'en revenais pas qu'un Français puisse jouer dans un film de Spielberg. Parce que j'étais fasciné par l'Amérique, tout ce qui était génial venait forcément des États-Unis, donc ils s'en fichaient normalement du reste du monde. Je me disais, mais il y a un Français dans un film de Spielberg. Et donc mon grand-père m'explique que c'est non seulement un Français, mais que c'est aussi un réalisateur français, et qu'il a fait des films. Et là, je me dis, mais incroyable, Spielberg aime un réalisateur français, admire un réalisateur français, le fait jouer dans un de ses films parce qu'il l'aime. Et là, immédiatement, ma grand-mère dit qu'elle aime pas ses films, qu'elle a jamais rien compris, etc. Mais ça m'est resté en tête, en fait. Et j'ai voulu comprendre pourquoi Truffaut était si aimé par Spielberg. Et ça m'a amené à regarder ses films. Et j'ai adoré, évidemment, je suis devenu un fanatique des films de Truffaut. Et ça, c'est ce qui m'a amené au cinéma d'auteur, en fait. J'ai quitté, c'est par cette porte-là que je suis entré, dans un autre cinéma que celui purement du divertissement ou du cinéma commercial qui pouvait être le centre de ma vie d'ado et d'enfant.
Et vous avez découvert le personnage d'Antoine Doinel.
Antoine Doinel, voilà, c'est vrai.
Alias Jean-Pierre Léo, dans l'autre sens.
Voilà, exactement. Et j'étais fasciné par le fait que c'est une sorte de double de Truffaut. Il se projetait sur ce personnage. Il racontait sa vie, mais sans la raconter directement, et ça semblait être quelque chose de... Quand j'avais vu Les 400 coups, c'était un film qui m'a marqué, parce que ça ressemblait quelque part, entre guillemets, à ma vie, mais pas par l'aventure qu'il y avait dedans, mais par la crudité de la représentation de l'enfance, par exemple. Cette scène où Antoine Doinel, dans la rue, croise par hasard sa mère en train d'embrasser son amant, par exemple, je trouvais que c'était la première scène la plus réaliste de la représentation de l'enfance que j'ai vue de ma vie. C'est-à-dire ce moment où le monde adulte qui ne fait pas attention à l'enfance et aux enfants leur arrive quand même sans qu'on ait eu l'impression que c'est arrivé. Je sais pas comment... Je me disais, mais ça, c'est ma vie, en fait. Des trucs que j'aurais pas dû voir, que je vois, ça représente vraiment l'enfance, en fait. Voilà. Et ça m'a... Voilà, ça, c'est vrai que ça m'a marqué, ça m'a poursuivi.
Est-ce que vous diriez que, d'une certaine façon, Truffaut ou le cinéma de Truffaut a pu vous inspirer quand vous avez réalisé vos propres films ?
Je dirais que, comparativement, moi j'ai la même obsession pour la bande dessinée que lui pouvait avoir pour le cinéma. Moi, en effet, je peux regarder pendant des heures des vidéos de Philippe Drouillet en train d'expliquer comment il fait ses BD avec ses bagues et son truc. Ça me fascine comme lui, j'imagine qu'il pouvait regarder des heures des interviews de Hitchcock ou de... Je sais pas, j'ai une vraie obsession de... infantile, maniaque pour les livres, la bande dessinée. J'écoute des entretiens de... J'ai tous les trucs, enfin, je lis des biographies de mecs, de Kessel, de machin. Mais pour le cinéma, j'avais pas du tout le même bagage que lui. Voilà. Mais c'est vrai que son histoire avec son enfance, La façon que ces films peuvent avoir parfois dans le grand public d'être un peu maladroit dans le jeu des acteurs. Moi, je sais que c'est quelque chose, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, ma grand-mère bretonne, elle me disait tout le temps, « Oh, ben, je trouve qu'il joue mal dans les films de Truffaut, ça me semble pas naturel, etc. » Et moi, au contraire, j'adorais ça, cette façon qu'ont les gens de parler comme ça. « Vous savez, je vous aime. » Je trouve que vous êtes belle. Enfin, il y avait quelque chose de très, c'était un autre monde, enfin, une sorte de dimension parallèle que j'avais jamais vue, mais qui semblait très réelle pour le coup, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Voilà, je sais pas, ça m'a, j'y pense très souvent. Ouais, même en bande dessinée, je pense très souvent à Truffaut. Je me dis, quelle bande, que penserait François Truffaut de mes BD, par exemple? Je l'imagine bien en train de lire une de mes BD et de dire, la bande dessinée, ce n'est pas quelque chose qui me plaît à la base. J'ai besoin du mouvement, j'ai besoin de la voix des acteurs, de leur présence. Les bandes dessinées de Satouf me sont assez rapidement tombées des mains. Enfin, je l'imagine en train de dire des trucs négatifs, mais ça me plaît quand même. Je sais pas, j'essaie de me dire quelle bande dessinée l'aurait bien aimé lire ou, je sais pas, voilà. Je l'imagine bien aimer complètement des trucs complètement différents. Je préfère les bandes dessinées de science-fiction, les bandes dessinées d'Heroic Fantasy, car c'est un univers fantasmatique qui me convient mieux. Voilà, j'imagine des trucs comme ça, je sais pas. Mais je vis avec des références comme ça qui, j'essaie de penser à ce qu'ils auraient pu. Ouais, voilà. J'ai des fantômes dans la tête.
Alors, quittons un temps Truffaut, on y reviendra peut-être, on verra. Pour votre film Les Beaux Gosses, pour lequel vous avez rencontré un certain nombre de jeunes acteurs, dont un qui était alors complètement inconnu, et pour cause, il était un collégien de 14 ans, et il ne se destinait pas, en tous les cas, au cinéma au départ. Ce jeune acteur s'appelle Vincent Lacoste, et donc vous l'avez découvert, et vous avez découvert un jeune avec une bouche de têteur, qui en rappelle un autre, puisque je rappelle qu'au tout début de L'Arabe du Futur, vous vous décrivez vous-même comme un enfant adorable, avec ses cheveux blonds épais, soyeux et une bouche de têteur.
Oui,
cette rencontre avec Vincent Lacoste alors.
Ben quand j'ai commencé quand il a fallu trouver les acteurs pour jouer les rôles du film Les Beaux Gosses, je voulais déjà des jeunes qui aient l'âge du rôle et donc j'ai essayé de trouver des comédiens qui étaient le plus proche possible du personnage des personnages que j'avais écrits. Et pour cela, en effet, les acteurs qu'on me proposait dans les agences d'acteurs, etc., étaient beaucoup trop beaux, trop beaux d'un point de vue, comment dire, commercial. C'est-à-dire, c'était des professionnels du cinéma. Ils avaient trop de désir de devenir acteur, de devenir célèbre. Toutes les jeunes actrices étaient beaucoup trop pimpantes, elles faisaient trop âgées. Les garçons étaient, c'était en fait, les acteurs professionnels âgés de 14, 15, 16 ans, c'est en général, ce sont des gens populaires dans tout, c'est tous les populaires des lycées, des collèges de France. Ils pensent à un moment qu'ils vont devenir acteurs. Parce qu'en effet, ils ont pas tort. Parce que comme ils plaisent à tous les gens dans leur collège, pourquoi pas ne faire, ça peut marcher aussi sur le pays. Voilà. C'est souvent d'ailleurs quand on voit, enfin, pour une petite parenthèse, mais la plupart des youtubeurs qu'on voit, je sais pas, moi je pense par exemple à Squeezie qui est assez marrant. Enfin, mais il est quand même très beau. Et il y a quelque chose du mec super beau, séduisant de la classe qui fait rire en même temps, vous pouvez rêver de sortir avec lui. Voilà, et c'était quelque chose moi que je voulais pas parce que ça représentait pas forcément, enfin ça représentait pas du tout ce que j'avais expérimenté en tant qu'ado, et je voulais trouver des gens avec des physiques particuliers, des manières de parler particulières, des gens qu'on montre pas en temps réel. Donc il fallait faire un casting sauvage. Casting sauvage, ça veut dire aller dans les lieux et proposer à des jeunes qui n'ont jamais eu envie d'être acteurs. Et c'est comme ça qu'au final on a fini par trouver un jeune qui n'avait jamais eu l'idée d'être acteur ou d'être créatif en aucune façon, qui s'appelait Vincent Lacoste, et que j'ai choisi pour jouer le rôle de mon héros, et qui ensuite a eu une carrière dans le cinéma et est devenu un acteur très renommé, qui a tourné avec les plus grands acteurs, etc. Et donc j'en ai fait aussi une bande dessinée de cette expérience-là, parce que c'était très, très amusant à observer, et que ça fait partie aussi c'est comme si un de mes personnages avait pris forme dans la réalité, forme réelle. Enfin, c'est, il y a quelque chose de magique aussi, d'un peu surnaturel dans ça. Moi, je l'ai vraiment vu n'avoir rien à faire du cinéma et se transformer complètement et devenir maintenant quelqu'un d'extrêmement beau et séduisant et un acteur qui joue avec Depardieu et qui refuse des trucs à Hollywood, des trucs. Enfin, c'est assez marrant à observer sur l'échelle d'une vie humaine, quoi. Voilà.
La naissance d'une célébrité.
La célébrité, c'est très intéressant aussi. C'est vrai que comme sujet, c'est un état de l'être qui est un peu unique et qui n'existe pas dans la nature, par exemple. Les chiens viennent pas féliciter d'autres chiens quand ils les croisent dans la rue ou qui, Et l'être humain, c'est très étrange de marcher dans une rue et puis de voir tous les visages vous regarder et sourire, par exemple. Ce que ça dit de l'être humain, de la place sociale, de ce qu'on tolère ou pas de certains. Je pense que quand on est beau et célèbre, on peut se permettre des trucs bien plus. C'est des trucs terribles, beaucoup plus tolérés que quand on est moche et inconnu. Ça donne un pouvoir sur la société. Voilà, enfin, j'avais envie de raconter ça, de mon point de vue, de raconter comment le monde extérieur s'est transformé autour de Vincent au fur et à mesure des années, parce qu'on est resté évidemment très amis. C'est marrant d'emmener les lecteurs dans cet univers-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'explore pas toujours.
Vincent Lacoste est devenu très célèbre, mais vous aussi, Riad Satouf, avez acquis une nouvelle notoriété avec le succès des Beaux Gosses, puisque le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qu'il a obtenu le César du premier film. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de faire par la suite, cette célébrité acquise maintenant dans le monde du cinéma? Déjà, ça a donné un deuxième film.
Oui, alors ça a changé que j'ai eu en effet plus de budget pour faire mon second film, qui s'appelait Jackie au royaume des filles, et que ça s'est arrêté assez rapidement, puisque ça a été un four intersidéral. C'est à cause de l'échec de Jackie au royaume des filles, enfin grâce aussi à l'échec de ce film, que je me suis retrouvé avec rien à faire devant moi, mon téléphone ne sonnait plus, j'avais beaucoup moins d'amis, j'étais beaucoup moins désirable que je pouvais l'être avant, et c'est là où j'ai commencé à faire l'Arabe du futur et à réfléchir à cette bande dessinée à laquelle je pensais depuis longtemps. Et le succès est revenu de manière assez spectaculaire de mon point de vue aussi avec l'Arabe du futur, et donc l'intérêt du cinéma est revenu pour le coup à cause du succès de l'Arabe du futur. Voilà. Mais le cinéma, c'est un univers tellement particulier que c'est pour ça que les gens qui travaillent dans le cinéma ou qui font du cinéma sont quand même fous. Tout le monde est un peu fou. Enfin, en BD, tout le monde est un peu fou aussi, mais dans le cinéma, fou dans le sens de, ça tourne la tête, quoi. Ça rend fou le cinéma, quand même.
Vous avez pas aimé?
Moi, je me rappelle Noémie Lvovsky, elle m'avait dit, le cinéma, ça rend complètement fou. C'est autorisé de devenir fou quand on fait un film. En fait, je trouve qu'elle a hyper raison. On devient fou, en fait. J'avoue, je suis devenu un peu fou quand j'ai fait mes deux films. J'étais content que ce soit terminé.
Vous n'avez pas aimé cette folie?
Ben, j'aime pas forcément être fou, non. J'avoue que on se pose plein de questions. Puis soudain, en quelques jours, le film qu'on a mis 4 ans à faire, où il explose, où il est aux oubliettes.
Donc c'est pour ça que vous êtes lancé dans une nouvelle série, Le Jeune Acteur, alors évidemment inspiré de ce monde du cinéma, parce que c'est la naissance d'une célébrité, c'est celle de Vincent Lacoste, mais c'est aussi, en tout cas dans le premier tome, le making-of du film. Vous racontez aussi le tournage, vous racontez justement qu'est-ce que c'est que faire un film.
C'est ça aussi, puis c'est le making of aussi d'une amitié qui est celle que j'ai avec Vincent, et de la making of aussi d'un acteur et de son épanouissement dans un milieu duquel il lui-même il vient pas du tout de là. C'est-à-dire c'est pas du tout quelqu'un de milieu culturel lié au cinéma ou à la création. Donc il y a quelque chose de très amusant à observer. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs, finalement, se fait une place.
Et puis c'est intéressant l'évolution de votre relation, puisque vous disiez, Riad Satouf, que vous êtes devenus très amis. Vous avez même dit « évidemment », c'est pas forcément une évidence, mais enfin, en l'occurrence, vous êtes devenus très amis. C'est intéressant l'évolution de votre relation, parce que à l'instant, vous disiez « oui, le cinéma, ça tourne la tête », comme si on pourrait penser que vous avez peur pour Vincent Lacoste que le cinéma lui tourne la tête, comme quand il avait 14 ans, vous aviez peur qu'il rate ses études, il se mette à se droguer parce que justement le cinéma risque de prendre toute la place. Enfin, vous le décrivez en tous les cas dans le premier tome du jeune acteur, vous décrivez comme une sorte de tonton un peu strict qui regardait l'évolution de sa carrière. Donc c'est amusant de voir comment les choses ont évolué entre vous.
Oui, alors c'est vrai, quand il était plus jeune, comme je l'avais jeté un petit peu dans le cinéma comme ça et qu'il n'avait pas voulu, il n'avait jamais recherché ça, je culpabilisais, j'avais peur que sa vie soit détruite par le cinéma, comme ça arrive parfois avec des acteurs qui sombrent dans les excès ou qui ratent complètement son truc et qu'il ait perdu du temps à faire des films alors qu'il aurait dû les consacrer à ses études, par exemple. Enfin voilà, et finalement, ça n'est pas arrivé, il a fait des très bons choix et maintenant c'est devenu Enfin, j'ai plus du tout peur pour lui du tout. Il est beaucoup plus cinéphile que moi. Il est beaucoup, justement. Alors, refaire un film avec lui, par exemple, je pense qu'il est, il est typiquement dans la catégorie des acteurs qui a, il a fait 50 fois plus de films que moi. Et si je lui faisais refaire 15 fois les prises, comme quand il avait 14 ans, au bout d'un moment, il en aurait marre. Je pense, il me dirait, mais c'est bon, là, là, pourquoi tu mets la caméra? Voilà, c'est devenu un vrai professionnel de la comédie. Donc je préfère en fait à la rigueur que notre relation continue à travers la bande dessinée que peut-être devant la caméra en fait. Voilà, je sais pas si il est bien meilleur que moi en fait maintenant. J'aimerais bien qu'il réalise un film. Je suis sûr qu'il pourrait être un super réalisateur parce qu'il a un super c'est un super cinéphile. Il a des capacités d'analyse très fortes. Il a surtout comme vous savez quand on dit quand on est réalisateur on est un petit peu comme un général. Je sais pas. Et les meilleurs généraux sont ceux qui ont été sur le terrain. Et donc, je pense que lui, ayant été acteur, il pourrait être un très bon réalisateur, je pense. Il a un très bon regard. Je ne désespère pas de le convaincre.
Bon, allez, c'est votre Antoine Douanel à vous.
Bof. Disons que sa vie aussi, il a peut-être la vie que j'aurais aimé avoir quand j'avais 14 ans. Voilà, j'aurais bien aimé qu'un réalisateur vienne me voir et me dise... Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu es parfait pour mon rôle car tu es très moche. Et je t'engage.
Il n'était pas content que vous me trouviez non, moche. Que vous l'enlaidissiez dans le film d'ailleurs.
Moi j'aurais adoré qu'on me dise ça. J'aurais fait, oh ouais, trop cool. Et puis j'aurais accepté de le faire. Et après, j'aurais fait du sport et je serais devenu quand même attirant et j'aurais continué une vie dans le cinéma. Voilà. Mais c'est vrai qu'il vit par procuration une sorte de vie parallèle que j'aurais bien aimé avoir. C'est vrai. Donc j'aime bien l'observer aussi par rapport à ça. Moi c'est vrai que en tant qu'auteur, disons que lui en tant qu'acteur, son corps désirable par les autres, c'est son corps à lui. C'est voilà, moi j'ai vu des choses de mes yeux quand j'étais avec lui dans des restaurants. Il y a des gens quand ils jouent un médecin dans un film, que le film sort, il y a des gens qui viennent le féliciter, lui dire courage pour le niveau de l'hôpital en France, etc. Il le félicite comme s'il était réellement médecin. Quand on est acteur, les gens, ils n'arrivent pas forcément à faire la différence entre l'acteur et ce qu'il a vraiment joué. Je sais pas. Moi, en tant qu'écrivain ou auteur, mon corps désirable par les autres, c'est le livre. Donc, c'est le livre qu'ils vont admirer et pas ma personne. Donc, ça change complètement le rapport qu'on a aux autres. Et c'est rigolo de mon point de vue d'observer ça sur quelqu'un d'autre justement qui est très sincère et qui me raconte tout ce que ça fait de en effet d'influencer le réel parce qu'on est un acteur célèbre et que les autres ont du mal à réaliser à faire la différence entre l'imaginaire et le réel.
Le jeune acteur Riyad Satouf, c'est un hommage à Yves Chaland et son jeune Albert.
Ah, j'adore Chaland bien sûr, oui. C'est marrant que vous le remarquiez, parce que personne ne l'a jamais remarqué ça exactement. Et Chaland, c'est un auteur que j'adule complètement et dont j'ai assez peu parlé. C'est vrai que j'aurais pu en parler dans l'Arabe du futur, mais je crois que son destin tragique me fait tellement peur que c'était le plus grand auteur de bande dessinée de sa génération, un génie incroyable qui a fait des... Et il est mort très jeune dans un accident de voiture. Et je sais que quand j'étais ado, ça m'avait terrorisé son histoire. Il y avait quelque chose de... Déjà, c'était un des auteurs les plus puissants qui est apparu depuis Hergé. Enfin, il avait une façon... Il a fait des albums qui sont des chefs-d'œuvre incroyables. Et ça s'est arrêté net comme ça. Et dans une logique d'imaginer qu'on a un destin ou qu'on a un... Enfin, je trouve que c'est terrible à dire, mais je trouve que le destin de Chaland, pour moi, c'est la preuve que il n'y a pas de vie après la mort ou qu'on n'a pas de... Il n'aurait pas dû terminer comme ça, en fait. Il aurait dû faire des livres, tout. Il aurait dû aujourd'hui avoir, je sais pas, 70 ans, et puis j'aurais continué à faire des livres, des trucs. Enfin, il y a quelque chose de... C'est vrai que il y a peut-être quelque chose du jeune Albert dans le jeune acteur. C'est vrai, un personnage... Chaland, c'était le roi des ellipses. Il fait des... Entre les cases, il a vraiment une narration de la bande dessinée. Personne n'a poussé aussi loin l'art de l'ellipse que ce qu'il faisait. Il générait un humour incroyable. Et je pense souvent à lui, oui, quand je fais ma bande dessinée.
Alors, Le jeune acteur, c'est aussi un livre qui est édité dans une maison d'édition qui est la vôtre, une maison d'édition que vous avez voulu indépendante, c'est important, qui s'intitule Les livres du futur. Alors, comme je crois que Le mot futur, c'est votre mot préféré. J'aimerais qu'on termine cette série. On a parlé beaucoup du passé. Parlons du futur. Comment vous le voyez, ce futur ?
Eh bien, j'ai envie encore de faire plein de livres. Voilà, j'avoue, j'espère que mon cerveau va fonctionner encore quelques années et que je me vois faire d'autres livres. Ouais, plein de livres. C'est la chose qui me plaît le plus au monde. Donc, j'ai pas de... Je pense souvent à l'ado que j'étais à 14 ans et ce que je suis aujourd'hui est complètement inespéré par rapport à ce qui y rêvait. Je pense qu'un centième de ce que j'expérimente aujourd'hui dans ma vie aurait déjà suffi à combler le jeune de 14-16 ans qui avait des rêves et donc qui vivait dans sa chambre à Rennes. Et donc je pense souvent, voilà, ça, je me dis, bon, bah, je vais continuer à faire des livres. C'est ce que je sais faire. Enfin, j'essaie de faire et voilà.
Vous avez terminé L'Arabe du futur avec le 6e tome. C'était une première partie d'une carrière d'auteur longue, Riyad Satouf. C'est comme ça que vous le voyez ?
Oh là là, alors c'est vrai que si je commence à imaginer le futur ou le passé, etc., je pense que je vais faire une dépression nerveuse.
Oh bah, on va pas le faire, alors, on va pas le faire.
Donc en fait, non mais même, c'est vrai que je peux pas réfléchir comme ça. J'espère que j'aurai encore des idées pour faire des livres. J'ai d'autres projets, je suis en train d'écrire un autre film, etc. C'est vrai que j'ai encore beaucoup d'envie de faire des choses, avoir des lecteurs, être très... j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à raconter, à dire, voilà. Et c'est vrai que le...
Mais oui, d'ailleurs, vous disiez que vous aviez terminé avec votre carrière de cinéma, mais il y a un film avec Les Inconnus qui est en préparation.
Oui, non, mais je suis en train de l'écrire. Oui, voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie d'être indépendant. Voilà, pour ça que j'ai monté en effet une petite maison d'édition. Je suis passionné par les livres. J'ai envie de pousser le truc le plus loin possible encore, de maîtriser le processus de bout en bout, quoi. Voilà. C'est parce que j'aime trop ça. Alors, est-ce que je finirais par même avoir une imprimerie ? Par exemple, j'adorerais avoir une librairie. C'est un de mes rêves d'ouvrir une librairie. Parce que j'adorais. Les meilleurs moments de ma vie d'ado, je les ai passés dans des librairies à regarder les livres que je ne pouvais pas m'acheter et que je lisais en douce. Et donc, je me dis, tiens, mais un jour, j'ouvrirai une librairie à Paris. Et puis, ce sera. Ça me fait fantasmer. Voilà, en tout cas, mon futur est lié aux livres. J'avoue, c'est un. Je m'imagine pas faire autre chose que d'être dans le milieu des livres.
Vous préférez finir quelque chose ou commencer ?
Ah, c'est une très bonne question, ça. Eh ben, je crois que je sais pas quoi répondre. Je crois que je préfère faire quelque chose. Voilà, être en cours. Commencer, ça fait peur. Finir, c'est inquiétant parce que les autres pensent que c'est fini. Mais moi, pour moi, s'il y a toujours quelque chose en cours, parce que je m'arrange pour avoir toujours des projets qui sont en parallèle. Et donc là, j'ai fini L'Arabe du futur, mais je continue avec Esther, il y a le jeune acteur, j'ai d'autres projets, etc. Donc dans la fin, il y a pour moi, il y a toujours quelque chose en cours. Je ne veux pas arrêter, voilà, c'est ça.
Merci Riyad Satouf.
Merci à vous, merci Caroline.
C'était À Voix Nue. Chargé de programme Daphne Abgral, prise de son Benjamin Perru, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.